les jardinières.
Les températures baissent, enfin on peut retourner au jardin sans craindre un coup de chaud. Soyez les bienvenus chez les jardinières. Bonjour Mike.
Mais bonjour Mylène, comment ça va?
Ben moi ça va bien et vous? Ravie de vous retrouver parmi les jardinières.
Ben oui, je suis ravie d'être par là effectivement.
Et pour ce dernier week-end d'août, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Mais bon réveil et merci d'avoir choisi Les Jardinières pour débuter votre week-end.
7h, 8h, Les Jardinières.
Jean-Pierre, ce matin vous allez nous parler de la taille en verre, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, dites-nous, les températures descendent, la pluie est de retour, du coup, on fait quoi au jardin?
Oui, alors il est vrai que l'excès de chaleur qu'on a eu sur un temps donné nous a tous fait souffrir autant que les espaces verts et les potagers. Bien sûr que maintenant, avec cette pluie qui arrive, on aura des redémarrages de végétation. Les légumes, les plantes qui auront souffert de ce laps de temps très chaud vont retrouver de la fraîcheur et puis redémarrer au niveau de la pousse. À l'évidence, on aura bien sûr les indésirables, les mauvaises herbes qui vont aussi redémarrer dans ces surfaces qu'on arrive à tenir très propres, parce que à chaque fois qu'on faisait un larronnage ou un piochage des carreaux de potager, eh bien sûr toutes les mauvaises herbes disparaissaient et puis ne pouvaient pas repartir en germination parce que la température était tellement excessive qu'il n'y avait aucune chance pour le redémarrage. Mais évidemment que maintenant, avec une diminution de la température et puis une arrivée d'humidité, ces mauvaises herbes vont redémarrer et puis il faudra aussi les combattre à l'évidence.
Merci Jean-Pierre, vous êtes avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Des questions qu'on attend évidemment par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes par minute. Vous aurez plutôt la possibilité de parler en direct avec Jean-Pierre ou via le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo. Ou alors dernière possibilité par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez le tout au 939.
Dans quelques minutes Jean-Pierre, vous allez nous parler de la taille en verre. On va se retrouver juste après une pause musicale.
Les jardinières.
C'est en hiver que l'on réalise au verger l'essentiel des tailles qui assurent la fructification. Mais vous avez certainement déjà entendu parler de la taille en verre qui se pratique en été sur certaines variétés. Alors de quoi s'agit-il au juste? La réponse avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Alors pour commencer Jean-Pierre, dans les grandes lignes, c'est quoi la taille en verre?
Eh bien, c'est une taille qu'on pratique sur la saison végétative de la plante. Alors, il y a des plantes qu'on va les tailler tous les mois, il y a des plantes qu'on va tailler une, deux fois dans la saison de végétation, il y en a d'autres qu'on va peut-être même pas toucher parce que la nécessité ne se fait pas sentir. Mais en fait, c'est parce que la végétation est active, vous avez des afflux de sève, vous avez du développement d'éléments végétales sur cette plante, et puis le fait d'intervenir précisément pour une action précise, eh bien, on l'appelle taille au verre parce que ben justement on est dans le verre.
Mais Jean-Pierre, vous connaissez mes talents au jardin. C'est quoi en fait le but? Ne vous moquez pas, Mylène. C'est quoi le but de cette taille au final de la faire en été?
Alors il y en a plusieurs, ça dépend du végétal sur lequel vous intervenez. Si par exemple, je vous prends l'exemple d'un bonsaï, on va faire une taille au verre sur le bonsaï, on va la tailler la plante 3, 4, 5 fois par année parce qu'on va pas vouloir la laisser se développer, on va garder sa forme initiale ou la structurer encore. Donc un petit bonsaï va se tailler très couramment, on va enlever les éléments qui nous gênent, qui se développent, qui s'allongent de trop. Ça c'est une taille au verre. Après vous avez par exemple la vigne, quand vous revenez sur les éléments de fruits, la grappe, et puis que vous enlevez le sarment qui continue de se développer, eh bien là, on va de nouveau enlever du végétal vert, et puis le but de cette taille-là, c'est simplement d'éviter que la vigne, le cèpe, ne continue de se développer, et puis de mettre au détriment l'élément nutritif par rapport à la grappe. Et puis après, vous avez par exemple dans les fruitiers, tout ce qui est des rejets, des démarrages sur tronc, des rejets au sol, et bien ça c'est aussi des interventions qu'on fait à cette période qui sont judicieuses parce que c'est de toute façon des éléments qu'on ne va de toute façon pas conserver, et puis plus vite ils seront enlevés mieux ce sera parce que le végétal sera quitte de s'épuiser pour mettre de l'élément nutritif à cela.
Jean-Pierre, vous avez parlé des bonsaïs, des fruitiers, qu'il faut faire cette taille en verre. Est-ce que ça se fait sur tous les arbres et les arbustes ? Ou devrait se faire ?
Parce qu'on, ça dépend du végétal. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un arbuste tel que le forsythien, on va faire une taille au vert après la mise à fleur parce qu'on sait que la fleur vient sur le bois de 2 ans et puis ce sera une taille régénérative qui va se faire après fleur, donc tout de suite fin mai, début juin. Après, ce qui est de fruitier, eh bien là, on va vraiment le faire à cette période parce que vous avez tous ces sarments qui arrivent. Si on prend l'exemple bête du rosier, eh bien, cette taille au vert va se faire parce que si vous laissez les vieilles fleurs s'épanouir, ce que vous voulez avoir, c'est de la graine. Le rosier va s'épuiser à produire des éléments de graines et puis ne va pas se remettre à fleurs. Tandis que le fait de sectionner ces vieux sarments où vous avez eu ces vieilles fleurs, le rosier va se défendre à cette taille et puis il va redémarrer. Puis comme on sait que le rosier, eh bien, il fleurit sur le bois de l'année, plus vous aurez de pousses et plus vous aurez de fleurs.
En général, la taille des arbres se fait en hiver, quand les arbres sont en dormance. Si on pratique cette taille en verre maintenant, est-ce que ça évite de refaire le travail en hiver ?
Alors il est vrai que les éléments qu'on enlève à cette période ne seront plus du tout à supprimer à l'hiver. L'avantage de le faire maintenant, c'est que vous avez de la végétation, vous voyez un peu ce qui se passe dans ce végétal. On a aussi un intérêt certain à la taille de l'été, c'est qu'en taillant encore maintenant ces éléments, eh bien la cicatrisation sera quasi faite déjà à l'automne, et puis vous n'aurez pas les entrées de maladies, de parasites sur ces éléments-là. Et puis alors comme la vigne, si vous l'avez fait à cette période justement dans l'intérêt de mettre de la luminosité et puis de l'élément nutritif sur le cep, eh bien il faudra quand même la retailler à l'automne parce que la plante elle est idem au rosier. Plus elle pousse, plus vous avez de l'élément de fruits parce que le fruit vient sur le bois de l'année et puis il faudra quand même la retailler à l'automne. Le bonsaï pas parce qu'évidemment la structure elle sera donnée et puis le bonsaï ce sera vraiment une plante qu'on va tailler durant la période de végétation. À l'automne, à l'hiver, on ne va pas intervenir dessus.
Merci Jean-Pierre, on va se retrouver dans un instant pour la suite de notre taille en verre. Vous nous expliquerez comment la pratiquer.
Les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, nous parlons de taille en verre. On peut donc tailler des arbres qui sont porteurs de fruits, comme des pommiers ou des cognassiers. Alors, il faut que vous nous expliquiez comment on va faire cette taille sur un pommier qui, en ce moment, porte des fruits. On va donc, Jean-Pierre, je ne suis pas une pro du jardinage, mais on ne va pas couper les branches où il y a des pommes.
Ah non, alors à l'évidence pas. On va surtout attaquer tout ce qui est des rejets, des tire-sèves, des pousses qui viendraient sur le tronc, qui vont déformer dans le temps ces végétaux. On n'intervient pas dans la couronne fruitière pour le moment, parce qu'à l'évidence, ben, ces fruits, si vous les chicanez, vous voulez en perdre une bonne partie. Et puis si on faisait une taille trop méchante, en plus avec l'été qu'on a eu, de mettre trop de luminosité sur des fruits ou des feuilles ou des branches en diminuant une partie de la couronne, eh bien vous occasionneriez des gros dégâts de coups de soleil sur ce végétal. Donc c'est vraiment pas le top. Non, je dirais que dans le fruitier, les interventions précises maintenant, c'est des interventions vraiment de rejet, ces gros axes qui sont des fois à la verticale dans la couronne, c'est tronc, c'est redémarrage au niveau du pied du végétal aussi. Là aussi, il faut porter garde parce que le végétal qui est greffé, il y a des fois des pousses qui viennent en dessous du collet de greffe et puis ces pousses, par le fait qu'elles sont en dessous de la greffe, elles ont beaucoup plus de vitalité que la greffe en elle-même. Et puis, avec quelques années, vous arriveriez à vous faire manger la variété que vous avez eue en greffe par ce sauvage parce que, ben, bien sûr, cette greffe, c'est vraiment un stop pour la sève. Et puis, cette lacune-là fait que le végétal pourrait se défendre et puis alimenter plus volontiers son origine. C'est la même chose sur le rosier, c'est la même chose fruitier. On a aussi des fois, on le voit couramment sur le noisetier tortueux qu'on rencontre dans nos aménagements extérieurs. Tout à coup, vous avez des grosses baguettes toutes droites qui dépassent à l'intérieur de ce noisetier tortueux. Et puis le fait de les couper, c'est terrible parce que si vous les coupez, elles vont redémarrer encore, celles-là, alors qu'il faudrait vraiment les arracher. Il faut prendre soin, quitte avec une hache ou une bêche, de les arracher, de les sectionner vraiment très bas dans le terrain pour éviter le redémarrage de ça.
Bon Jean-Pierre, alors on l'a compris, on doit couper, mais concrètement, on a besoin de quoi pour pratiquer ces tailles en verre ? Quels outils ?
Alors, en général, c'est le sécateur ou la scie, parce que c'est jamais des très très grosses interventions, hein, étant donné qu'on est quand même dans une période de végétation, on va pas se permettre de faire de l'élagage, on ne peut pas se permettre. Scie, sécateur, ça va bien, ça peut se faire aussi au greffoir ou à la serpette. On n'a pas parlé non plus, mais une taille de plante en verre, ça peut être aussi simplement l'entretien d'une haie. On sait que les haies, ça se taille aussi à cette période. C'est évidemment avec un taillet qu'on le fait. L'avantage de tailler des haies à fin août, eh bien, on est en fin de période de végétation de pousse, vraiment. Et puis, votre haie qui a été taillée à ce moment va rester super jolie jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Ça veut dire jusqu'au moment où elle va redémarrer. Et puis, encore une fois, bien sûr, la selle taillée que l'on va utiliser. Et puis, c'est des tailles, en général, qui ne sont pas trop méchantes, pas trop sévère, parce que sinon on a vraiment trop de risques d'occasionner des gros coups de brûlure de soleil sur les axes, et puis ces grosses plaies après par le temps sont difficiles à cicatriser.
Les jardinières.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant chez Les Jardinières. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Nous parlons de la taille en verre ce matin, mais nous allons également répondre à vos questions d'ici quelques minutes.
Et oui, c'est le moment d'attraper votre téléphone et de nous appeler au 0901 70 20 20 pour poser directement votre question à Jean-Pierre. Ou alors, vous pouvez nous envoyer une photo avec votre question en passant par le formulaire qui est disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Ou dernière possibilité, vous pouvez nous faire un petit SMS au 939 en tapant jardin, un espace, votre question, votre nom, puis vous envoyez le tout.
Jean-Pierre, vous nous avez parlé de la taille en verre en première partie d'émission, une taille qui permet une meilleure fructification des fruits qui arrivent. Est-ce qu'on peut faire cette taille en verre maintenant qu'il a fait très très chaud et maintenant qu'il va faire entre guillemets très très froid ?
Alors oui, ça n'a pas d'incidence par rapport à la période, s'il fait chaud ou s'il fait froid. Ce qu'il faut comprendre, je dirais que même par le temps qu'on a eu, si en plus on enlève de la feuille, eh bien le végétal va se porter d'autant mieux. Faut comprendre que le matériel enlevé, feuillu, était des parties de végétation qui transpirait bien sûr par ces conditions climatiques. Et puis le fait de diminuer un peu ce volume de feuilles ne va en tout cas pas altérer la végétation, mais plutôt lui faciliter une reprise par le temps qui change maintenant.
Et Jean-Pierre, une fois qu'on a taillé l'arbre, on se débarrasse des déchets verts, est-ce qu'on peut simplement les mettre au compost ou est-ce qu'il y a d'autres utilisations ? On doit faire attention à des maladies, à différentes choses ?
Non, alors on n'a pas de problème particulier par rapport à des maladies ou des parasites sur ces déchets de taille. Après, si c'est très très herbacé, eh bien sûr on peut le composter. Si c'est du matériel qui est très ligneux, donc branchage et autres, comme du déchet de taille de haie, de rosier, où on a des éléments qui sont durs, là il vaut mieux les composter sur une place de compostage qui permettra justement une décomposition du matériel ligneux. Mais tout ce qui est de végétal facilement compostable est intéressé à être mis sur le compost, autant de la feuille que le tout, quoi.
Et pour conclure, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire que cette taille en verre est donc un geste qu'il ne faut pas négliger sur nos arbres fruitiers et autres arbres ou arbustes qu'on a dans notre verger ?
Alors je dirais que, en tout cas, les professionnels portent garde à la faire, à la réaliser, parce qu'à cette période, vraiment, on arrive à sélectionner ce que l'on souhaite, on arrive à cicatriser nettement plus facilement les coupes après sur l'arrière-saison, et puis selon les rejets que vous enlèverez, ou les tire-sèves dans des arbres fruitiers, des arbustes ou des arbres d'avenue par exemple, et bien le fait de cicatriser sur la fin de cette année ne va pas faciliter le redémarrage de ces yeux latents qui s'y trouvent au printemps prochain. Par contre, si on enlève ces gourmands durant l'hiver, eh bien, ça n'aura pas cicatrisé. Et puis, au printemps, le végétal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se défendre et repartir avec des nouvelles pousses qu'il faudra de nouveau enlever les hivers d'après. Donc, il est plus judicieux de faire des tailles, c'est un peu des tailles de formation, comme on appelle ça dans les pépinières. Ça se pratique vraiment maintenant, août, septembre. Et puis, ça va vraiment limiter les repousses successives de ces tire-sèves que l'on ne souhaite pas.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces informations. Voilà une tâche qui devrait nous occuper, Mylène, ce week-end. Et sinon, dans la suite des jardinières, il sera temps de répondre à vos questions, aux questions des auditeurs.
7h,
8h. Les jardinières.
7h43 chez les jardinières, nous répondons à vos questions, des questions que vous pouvez toujours nous poser par téléphone, par exemple au 0901 70 20 20 et la chance de parler en direct avec Jean-Pierre, ou alors vous pouvez nous envoyer vos questions en remplissant le formulaire disponible sur nos sites comme l'a fait Christophe de Courroux. Jean-Pierre, cette question est pour vous. Je possède 3 pommiers, comme constaté aussi dans d'autres vergers depuis un certain temps, les pommes tombent alors qu'elles n'ont que peu grandi et ne sont pas mûres. Il ne reste bientôt plus de fruits sur les arbres. Pourquoi cela ? Peut-on faire quelque chose pour l'éviter ? Question de Christophe.
Oui, alors bonjour Christophe. Effectivement, on a des fois des phénomènes comme ça dans les arbres fruitiers, pas forcément liés qu'aux pommes, mais aussi aux poires, aux cognassiers et autres. En fait, le végétal, il souffre tellement des périodes de végétation sèche que l'on vit, il va se défendre pour survivre à ces périodes. Et puis, pour survivre, eh bien, il va se délester en premier des fruits, évidemment, parce que c'est des éléments qui sont très demandeurs au niveau de la sève, des éléments d'humidité. Et puis, ce que l'on remarque des fois aussi, c'est même une perte conséquence de feuillage. Alors, c'est pas trop dramatique pour le feuillage, parce que voilà, mais au niveau du fruit, c'est désagréable. Puis, pour se prémunir de ça, à part un arrosage préventif, ce qui n'est pas toujours très simple, parce qu'en plus avec les interdictions, les économies des réseaux d'eau quand doit pratiquer, ou bien alors sinon vous faites des réserves d'eau et puis vous donnez de temps en temps de l'humidité pour que cela n'arrive pas. C'est pas pour autant que l'année prochaine vous n'aurez pas de nouveau une mise à fruits et puis un feuillage sain, mais c'est simplement que le végétal il se sera défendu de ces périodes très chaudes. Ce que l'on peut aussi faire pour éviter ces phénomènes, c'est peut-être au démarrage, quand on implante le verger fruitier, eh bien on va vraiment chercher des endroits où on a une épaisseur de terre conséquente et puis en tout cas pas sur des surfaces arides, sèches, trop exposées où on a peu de végétal, parce qu'évidemment trop exposé avec un minimum de terre végétale, et bien le végétal, il devra se débrouiller, aller chercher très loin cette humidité. Et puis, de temps en temps, il n'y arrivera quand même pas. Puis, vous avez justement ce phénomène de chute prématurée du fruit.
On a reçu une autre question, Jean-Pierre, d'Isabelle de Chevenay, qui nous demande « Notre vigne avait de magnifiques grappes qui sont devenues noires en très peu de temps. Les ceps n'ont jamais été traités. De quoi s'agit-il ? Que devons-nous faire ? Merci d'avance pour votre réponse. »
Il y a une photo avec cette question, Jean-Pierre. Peut-être on va commencer par décrire la photo où on voit ces grains de raisin un peu éclatés.
Oui, tout à fait. Bonjour Isabelle. En effet, la grappe que j'ai sur papier, la moitié des grains ont éclaté et puis se sont certainement mis à suppurer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les températures que nous avons eues a durci la peau de la grappe. Et puis, une fois durci, le raisin, il a quand même voulu continuer de se développer, de se mettre avec du sucre et du jus dedans. Et puis, comme il n'y avait plus assez de capacité, et puis comme la peau était trop dure, elle n'était plus extensible, eh bien elle a cassé. Et puis le fait d'avoir cassé, eh bien ce sucre qui s'est écoulé sur la grappe et puis sur les sarments, comme on voit sur photo, a développé justement un champignon qui a noirci et puis qui est collant et puis qui altère l'ensemble de la récolte. C'est vraiment un phénomène suite au sec et puis que le raisin s'est développé très vite ce printemps. Après, vous avez eu cette période de sec qui a été latente pour la peau du raisin qui s'est durcie. Et puis après, ben, il a quand même fallu qu'il se remette à maturité. Et puis c'est à ce moment-là que vous avez eu ces dégâts. Puis pour prévenir ce phénomène, eh bien, à part ne pas enlever trop de feuillage quand vous faites la taille en verre, alors ça pourrait être un dégât direct d'une taille trop sèche, trop conséquente sur le végétal. Donc on a dit que le sarment, on le taille en verre, on enlève la suite de la pousse après les grappes. Mais il faut chercher à laisser quand même un peu de feuillage justement pour protéger ces grappes, parce que là c'est du dégât direct d'une exposition trop ensoleillée qui est suite à une taille. Si c'était une grappe qui avait été constamment à la luminosité, elle se serait adaptée. Par contre, le fait d'avoir certainement fait une taille très, très méchante, assez conséquente, et puis d'enlever trop de feuillage, vous avez eu trop de soleil sur la grappe qui a causé ces dégâts qui sont irréversibles.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière partie des jardinières, dernier moment pour répondre à vos questions. Nous avons une question de Marie qui nous dit, Jean-Pierre, pour vous, qui a plusieurs questions. Elle nous dit d'abord qu'elle habite à 820 mètres d'altitude. Elle a déplacé un camélia qui a passé deux hivers dans un endroit qui ne semblait pas lui convenir. Un endroit au bord d'une petite route de quartier où il y avait des tas de neige, le sel de la route, le froid. Un endroit à courant d'air, etc. Tous ses boutons étaient tombés et son état général était mis à mal. Elle demande comment le protéger pour l'hiver et s'il faut le couvrir, quand le couvrir et quand le découvrir pour qu'il puisse s'épanouir au mois de mars sans risquer le gel trop intensivement. Ça, c'est sa première question.
Alors, je réponds déjà à celle-là peut-être. Par rapport à la photo qu'elle a transmise, le camélia sur photo, il a l'air de s'épanouir, le feuillage, il est sain, et puis on voit qu'il a refait des nouvelles pousses cette année. Mais on peut aussi imaginer qu'il avait fait une grosse chute de feuilles prématurées ce printemps au niveau de la feuille, dans la manière où il est très éclairci. Et puis ça, c'est évidemment des dégâts qui sont certainement dus au froid, mais en tout cas pas à l'emplacement en bordure de route ou du sel ou autre. Maintenant, évidemment, on sait qu'il est des végétaux qui ne supportent pas très bien ce sel de bord de route, et puis il est peut-être plus judicieux pour lui, le camélia, d'autant plus que c'est une plante de terrain acide, de l'avoir mis dans un endroit un peu plus protégé. Après, au niveau de la protection hivernale, alors oui, il faut le protéger, le camélia, c'est pas une plante qui va passer facilement les hivers chez nous, d'autant plus à 800 mètres d'altitude. Le protéger soit avec du flim, soit avec des géotextiles, soit avec des couvertures, soit le densifier au niveau du pied avec un bon lit de feuilles mortes ou de paille, ou une protection de pied aussi intéressante pour ne en tout cas éviter les dégâts du gel total. Ce qu'on sait, c'est surtout qu'il ne faut jamais les protéger avec des plastiques ou quelque chose d'hermétique, parce que là, c'est la mort assurée du végétal. Et puis, les déballer après, c'est plutôt début mars, mi-mars, selon les conditions météorologiques. Il faut comprendre aussi que le fait qu'ils aient été protégés durant l'hiver, eh bien, ils ne sont en tout cas pas trop renforcés au niveau du froid. Et puis, de les découvrir trop vite au printemps pourrait quand même occasionner des dégâts sur les dernières gelées que l'on pourrait rencontrer. Pour le reste, j'ai pas trop de soucis. La mise à fleurs de l'année prochaine devrait être bonne parce que sur photo, encore une fois, on voit que le développement est sain.
Et puis elle avait une seconde question qui parle d'un Hydrangea petiolaris qui prend bien de l'ampleur. Un arbuste qui ne se taille pas trop en temps normal, mais elle demande comment le tailler et est-ce qu'il va fleurir l'année prochaine. Toujours Marie.
Alors, pour Marie, les hydrangeas, en tous les cas, c'est des plantes que l'on taille un peu. Ils remettent les fleurs facilement l'année d'après. C'est seulement selon l'intervention de taille que vous aurez pratiquée. Donc, l'hydrangea, c'est les hortensias, hein, par chez nous, appelés communément. On enlèvera vraiment toutes les anciennes ombelles florales qui se seront épanouies. Et puis, on va laisser le reste du végétal latent jusqu'à cet automne. Et puis, cet automne, au niveau de la taille, on va diviser, je dirais, on va enlever un tiers du vieux bois sur le végétal à la base pour permettre une régénération du pied. Et puis, on va vraiment laisser les pousses de 2-3 ans parce que c'est là-dessus que vous aurez la mise à fleurs de l'année prochaine. C'est assez facile de les cultiver, les hortensias, sous réserve de ne pas se tromper dans la taille. Si vous faites une taille trop méchante, ce qui va arriver, c'est que l'année prochaine, vous n'aurez que du développement de bois. Et puis, comme on sait que l'hortensia va faire ses fleurs sur le bois de 2 ans, eh bien, il faudra vraiment attendre ces 2 années pour avoir cet épanouissement, et puis ce serait dommage. Donc, une taille, oui. Enlever toutes les anciennes ombelles et puis le bois cassé, le bois mort, ça arrive, bien sûr. Et puis après, sur l'automne, l'hiver, eh bien, on va faire cette taille d'entretien irrelatif.
Jean-Pierre, on a reçu une question là il y a quelques secondes. Très rapidement, est-ce que vous pouvez y répondre avec une photo? Et la question, c'est de Mara des Genevès-sur-Cofrane qui demande à quoi sont dues sur les feuilles des poiries des taches selon la photo jointe. Et si on explique un peu la photo, sur les feuilles, il y a des points un peu noirs, bruns. Est-ce que les fruits sont consommables?
Alors oui, les fruits sont évidemment consommables. On voit même un fruit qui est super épanoui. On voit également ces taches noires sur feuillage. En fait, on pourrait penser que ça pourrait être de la rouille parce qu'on sait très bien que le poirier est une plante haute de la rouille. Mais non, là, en l'occurrence, on est en présence d'une tavelure. C'est un champignon qui s'est développé durant la saison de végétation. La tavelure, c'est un champignon qui est un peu difficile à combattre. L'intervention chimique devrait se faire tous les deux, en 2 ou à 3 fois. Donc c'est compliqué pour un privé d'intervenir là-dessus. Moi, je pense que c'est pas un problème d'avoir un peu de tablure comme elle a sur ce feuillage. Et puis, d'autant plus que le fruit n'a pas du tout été impacté par la maladie. Et puis, l'année prochaine, peut-être il n'y aura plus, peut-être il y aura. Ça dépend de l'emplacement, des conditions météorologiques que l'on aura. La tablure n'est pas catastrophique, je dirais, sur poirier. On a plus de problèmes sur pomme parce que la pomme elle est des fois tachetée avec la tablure. Et puis là, c'est bon, intéressant.
Merci beaucoup Jean-Pierre. En tout cas, on souhaite à cette personne beaucoup de belles tartes aux poires. Il est déjà temps de se quitter. Jean-Pierre, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. On vous souhaite un très bon week-end, puis on vous dit à très vite chez les jardinières.
Merci volontiers, puis bon week-end à tout le monde.
Merci Jean-Pierre. Et puis on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine dès 7h. Et cette fois-ci, nous serons en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher à la microferme La Rochette à Charmoy, dans le Jura. Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.